L'ascension de Jésus-Christ au ciel. Sermon prononcé le 9 mai 1630, jour de l'ascension. Texte biblique. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Psaume 110, verset 1. Chers frères, ce psaume s'étant rencontré dans la suite des chants ordinaires de l'Église, il n'a pas été besoin de délibérer sur le choix d'un texte qui fut propre à l'occasion présente. Car le prophète, comme vous voyez, y célèbre le mystère dont les chrétiens solennisent aujourd'hui la mémoire, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel et son siège à la droite de son Père. Toute la différence qui se trouve entre ce que dit le psalmiste et ce que nous faisons est qu'il décrit l'avenir et que nous célébrons le passé. Il regarde cette gloire du Christ de Dieu comme future, et nous la contemplons comme déjà accomplie. En quoi paraît clairement la divinité des Écritures, par le rapport des prédictions avec les événements si justes que quiconque les comparera exactement ensemble reconnaîtra sans difficulté que c'est l'ouvrage de Dieu et non de l'homme. La dévotion de ce jour ne me permet pas de m'arrêter à combattre ici, dès l'entrée, les rêveries des rabbins qui, poussés par la haine qu'ils ont contre le christianisme, détournent ce psaume à un autre qu'au Messie. Leurs gloses sont si grossières qu'en effet elles sont plus dignes de pitié que de réponse. Car qui pourrait souffrir les songes qu'ils débitent sur ce lieu, n'ayant point de honte de dire que ce cantique expressément intitulé « Psaume de David » a été composé par Éliézer, serviteur domestique d'Abraham, à la louange de son maître au jour qu'il revint de la défaite des rois. Comme si Abraham avait jamais été sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ou comme si Dieu l'avait fait asseoir à sa droite. Ce ne sont que des fantaisies dignes d'un peuple livré, à un sens réprouvé par le juste jugement de Dieu. Laissons donc là ces misérables aveugles tâtonner en plein midi, et suivant le fil du texte sacré, la lumière des choses mêmes, l'autorité du Seigneur Jésus et de ses apôtres, l'exemple de tous les interprètes de l'Écriture et le consentement des ancêtres même des Juifs qui ont vécu avant leur endurcissement, rapportons ce psaume au Messie que le prophète David regarde ici en esprit, comme il fait souvent ailleurs, et décrit admirablement les principaux articles de sa charge, 1000 ans. Avant sa venue. Élevons nos yeux et nos pensées au ciel avec lui. Suivons-y le Seigneur qui est monté en la plénitude des temps et s'est assis à la droite de l'Éternel, selon la vérité de cet ancien oracle, y régnant jusqu'à ce que ses ennemis aient été mis pour le marchepied de ses pieds. Il n'était pas possible qu'il n'en arrivât pas ainsi, puisque l'Éternel l'avait dit, comme parle le prophète. C'est-à-dire puisqu'il l'avait résolu et arrêté dans son conseil éternel. Car vous savez que le dire de Dieu, c'est sa pensée et sa volonté, que l'Écriture, selon son style ordinaire, exprime avec les termes des choses humaines. Je ne m'arrête pas à vous expliquer qui est cet Éternel, le grand Dieu et Seigneur souverain de l'univers, ainsi nommé pour l'invariable constance et fermeté tant de sa nature que de sa volonté. C'est une connaissance familière à tous les fidèles. Mais nous avons à considérer comment David appelle le Christ son Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur. Question qui confondit autrefois le sourcil des pharisiens et réduisit leur fierté au silence, comme nous le lisons dans l'Évangile. Car puisque le Christ n'était pas encore né au temps de David, et qu'il devait naître de sa semence, comment et pour quelle raison le nomme-t-il son Seigneur? Pour résoudre cette difficulté, je dis que David et tous les fidèles qui ont vécu sous l'Ancien Testament ont reçu leur salut de Jésus-Christ et n'ont joui d'aucune grâce spirituelle que par son bénéfice, d'où il s'ensuit qu'il a été leur chef et leur Seigneur, étant clair qu'il ne communique ses grâces qu'à ses sujets, à ceux qui sont à lui et en lui, comme parle l'Écriture. La seigneurie qu'il a sur nous en tant que Christ et médiateur est fondée sur ce qu'il est notre sacrificateur, notre prophète et notre roi. Ces trois qualités lui donnent l'empire et le droit qu'il a sur nous. Or, il était aussi le sacrificateur, le prophète et le roi des fidèles qui vivaient sous l'Ancien Testament. Car puisque Dieu leur a pardonné leurs péchés, comme chacun le reconnaît, et puisque d'ailleurs il n'y a point d'autre nom donné aux hommes sous le ciel pour être sauvés que celui de Jésus, qui ne voit que c'est nécessairement de lui que les pères ont puisé leur salut, et que par conséquent la vertu de son sacrifice leur a été appliquée. Il n'y a point de rémission sans effusion de sang, c'est-à-dire sans sacrifice propitiatoire. Que les pères aient eu rémission de leurs péchés, il est évident, et par l'histoire de leur vie, et par la doctrine de saint Paul, qui témoigne expressément qu'ils ont eu part à la cité de Dieu, leur vraie patrie, où ils n'entrent rien de souillé. Il faut donc qu'ils aient été arrosés du sang de Christ, seule victime capable de purifier leur conscience. Car pour le sang de leurs bœufs et de leurs taureaux, et la cendre de leurs génisses, et autres semblables propitiations légales, la nature des choses même nous montre assez la vérité que l'apôtre nous enseigne en termes explicites qu'il n'était pas possible que cette sorte de sacrifice ôtât le péché. En effet, saint Paul dit qu'il buvait de Christ, la pierre spirituelle qui les suivait. Ils en buvaient parce qu'ils en tiraient la rémission de leurs péchés. L'eau céleste qui coula de son côté, lorsque frappé de la verge de Moïse, c'est-à-dire de la malédiction de la loi, il s'ouvrit et versa en abondance la grâce nécessaire pour contenter, rafraîchir et vivifier les âmes pécheresses. Le Seigneur dit lui-même qu'Abraham, beaucoup plus ancien que David, a vu son jour et qu'il en a tressailli de joie. Pourquoi, si de ce jour de Christ il ne lui revenait aucun profit, s'il ne trouvait avec nous sa paix, son salut et sa gloire? C'est pourquoi saint Jean l'appelle « l'agneau mis à mort dès la fondation du monde ». Non qu'en effet et réellement il ait été dès lors immolé, cela ne s'est fait qu'en la plénitude des temps. Non simplement que Dieu eût dès le commencement arrêté et prédestiné qu'il serait immolé un jour, car il semble que ce serait un langage froid et peu raisonnable de dire qu'un homme est mort dès la fondation du monde, sous ombre que Dieu a dès lors ordonné de sa mort. Mais bien parce que sa mort future dans les derniers siècles était dès le commencement efficace envers les fidèles, jetant derrière et devant elle, d'une part jusqu'au commencement, de l'autre jusqu'à la fin du monde, les filets de son sang sacré pour arroser l'ancien et le nouveau peuple et les expier l'un et l'autre de leurs crimes par cette aspersion sainte et mystique. Et c'est ce que l'apôtre signifie aussi ailleurs quand il dit que Jésus-Christ a été le même hier et aujourd'hui et l'est encore éternellement. C'est-à-dire et qu'il est non simplement Dieu ou Fils de Dieu, mais toujours médiateur entre Dieu et les hommes, et toujours accompagné d'une même vertu efficace pour sauver tous les croyants. J'ai dit en deuxième lieu que le Christ a été le prophète, c'est-à-dire le docteur et maître souverain de David et de tous les autres fidèles de l'Ancien Testament, car n'est-il pas, comme dit saint Jean, la vie et la lumière des hommes ? C'est-à-dire leur lumière non en la nature seulement, mais principalement en la grâce. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils l'aura voulu révéler. Nul ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui-même l'a déclaré. Mais la vie et les écrits des patriarches nous montrent clairement qu'ils connaissaient Dieu. Il faut donc avouer que le Fils leur avait révélé cette vérité et qu'ils avaient puisé de sa plénitude et étudié en son école aussi bien que nous. En effet, c'est lui qui leur envoyait les prophètes qui les instruisait, comme saint Jean nous l'apprend, quand il pose expressément que Jésus était ce Seigneur souverain qui, s'étant fait voir à Ésaïe, assis dans son temple sur un trône glorieux, l'avait dépêché pour prophétiser à son peuple. D'où il paraît que Jésus était le grand prophète de l'Église ancienne, aussi bien qu'il l'est de la nouvelle. Mais je dis enfin qu'il était aussi leur roi et leur conducteur, ce grand ange particulièrement célébré dans les anciennes Écritures, qui se manifestait aux patriarches, qui gouvernait Israël dans le désert, et dont il leur fut si expressément commandé de le respecter. « Donne-toi garde, leur dit le Père éternel, de le fâcher. Écoute sa voix et ne l'irrite point, d'autant que mon nom est en lui. » Lui qui s'apparut à Josué en qualité de chef des armées de l'Éternel et qui fit tous les exploits nécessaires pour la conservation de ce peuple. Car ce fut celui-là sans doute que les Israélites tentèrent dans le désert, comme vous en avez l'histoire dans les livres de Moïse. Or Christ était celui que les Israélites tentèrent au désert, comme saint Paul nous le déclare dans sa première épître aux Corinthiens. « Ne tentons point Christ, comme aussi quelques-uns de ses anciens Israélites l'ont tenté. » Ainsi, ce Christ qui est le roi du nouveau peuple l'était aussi de l'ancien. Et cet éternel que vous trouvez si souvent dans les prières des saints de l'Ancien Testament, dans leurs actions de grâce, dans leur délivrance et dans leur châtiment, est le même Jésus que nous réclamons et invoquons aujourd'hui, comme il paraît par mille autres enseignements, et nommément par celui-ci, que ce que le prophète dit de l'Éternel dans le psaume 102, lui attribuant la création et la conservation de l'univers, et particulièrement le rétablissement de Sion, c'est-à-dire de l'Église. Tout cela, dis-je, est rapporté par saint Paul à notre Seigneur Jésus-Christ dans son épître aux Hébreux. Aussi voyez-vous que les souffrances des anciens fidèles sont nommées l'opprobre de Christ. Pourquoi et avec quelle raison si Christ n'eût pas été leur Seigneur? Malachie le nomme le Seigneur et appelle le temple de Jérusalem son temple. Pourquoi s'il n'y était pas servi? Daniel le nomme le Saint des Saints, qui est, comme chacun sait, le nom du Dieu et du roi de l'ancienne Église. Concluons donc que le Christ était véritablement le sacrificateur, le prophète et le roi souverain de tous les fidèles qui vivaient sous l'Ancien Testament, aussi bien que le nôtre, qui avons eu le bonheur de naître sous le Nouveau. Et c'est la raison pourquoi David l'a ici appelé son Seigneur. D'où il paraît, premièrement, que le Christ était et vivait avant que d'avoir pris notre chair dans le sein de la Bienheureuse Vierge. Autrement, comment aurait-il été le prophète et le roi de l'ancien peuple? Comment les aurait-il conduits, enseignés et gouvernés? Comment et de quel droit l'aurait-il appelé leur Seigneur dès ce temps-là, s'il était vrai, comme quelques hérétiques l'ont blasphémé, qu'il ne subsistait point alors en la nature avant le temps de son incarnation? Mais il faut encore pousser notre conclusion plus avant et déduire en deuxième lieu que le Christ est Dieu béni éternellement, Créateur et conservateur des cieux et de la terre, puisqu'il est clair que celui-là seul, et non aucun autre, était le Seigneur et le conducteur du peuple ancien. En troisième lieu, de la même paraît encore que Jésus-Christ n'est pas sauveur de son Église en tant seulement qu'il lui a donné les enseignements et les exemples de la sainteté et du salut, et lui en a laissé la doctrine très parfaite dans son Évangile. Car si cela était, il ne pourrait et ne devrait pas être nommé le Seigneur de David et des autres fidèles vivant sous l'Ancien Testament, étant clair que ni l'exemple de sa vie et de sa mort, ni la prédication de son Évangile ne leur pouvaient servir, n'étant pas encore révélé en ce temps-là. Mais il est notre Sauveur en tant principalement qu'il a expié nos péchés par la satisfaction de sa croix et en tant qu'il nous console et sanctifie réellement par l'opération de son Esprit dans nos cœurs. Deux effets qu'il a pu déployer et a déployés en effet en son Église depuis le commencement du monde. Enfin, nous avons comme ici à conclure que le Christ est un roi spirituel et céleste, car s'il était roi temporel et mondain, comme les Juifs se le figurent, quelque haute et admirable que pût être sa gloire, David, qui était aussi roi temporel et même un grand et excellent roi, ne l'appellerait pas son Seigneur comme il fait. Je sais bien qu'il peut arriver qu'un roi parlant à un autre roi l'appellera son Seigneur par une forme de civilité assez ordinaire entre les hommes. Mais c'est une chose inouïe qu'un roi souverain, comme était David, parlant de notre roi, bien que plus grand et plus puissant que lui, le nomme simplement son Seigneur. Puisque donc David, parlant ici non au Messie, mais du Messie, l'appelle simplement et absolument « mon Seigneur », c'est un signe évident que le Messie a une souveraineté ou monarchie spirituelle à l'égard de laquelle David n'était que sujet, et non une supériorité temporelle à l'égard de laquelle David n'était sujet de personne, étant roi comme il était. Cela paraît encore plus clairement si vous considérez que le Christ étant fils de David selon la chair, et l'Écriture prédisant qu'il sera assis sur le trône de son père, il s'ensuivra, si vous l'entendez littéralement et charnellement avec les Juifs, que la royauté du Christ dépendra de sa naissance et n'aura nul autre règne que celui de David, si bien qu'en ce sens, le Christ ne pourra être son Seigneur en aucune façon. Il faut donc dire nécessairement que cette seigneurie du Christ est spirituelle et divine, dont le règne de David n'a été que l'ombre et le crayon, de sorte que quand l'Écriture dit qu'il est assis au trône de David, il faut l'entendre typiquement, c'est-à-dire qu'il est sur un trône dont celui de David, son père, selon la chair, était autrefois la figure. Que reste-t-il donc, chers frères, sinon que nous prosternons devant ce grand roi, reconnu par David pour son Seigneur, adoré et célébré par tous les fidèles, nous lui rendions l'honneur, l'hommage et le service spirituel dû à sa majesté souveraine, lui soumettant non seulement nos corps et nos biens, mais aussi principalement nos cœurs et nos âmes. Et pour enflammer notre amour et notre dévotion envers lui, considérons ensuite la dignité que le Père lui a donnée. « L'Éternel, dit le psalmiste, a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Être assis à la main droite d'un prince signifie, dans le style de l'Écriture, être la seconde personne de son état, tenir le premier rang auprès de lui et avoir la plus haute et souveraine autorité après lui, comme il paraît par le langage de la femme de Zébédée dans l'Évangile, qui se figurant, selon l'imagination commune des Juifs, que le royaume du Seigneur Jésus serait un empire terrestre, le supplie que l'un de ses fils y soit assis à sa droite et l'autre à sa gauche. Sur quoi notre Seigneur fait à ses apôtres une belle leçon contre la vanité. Il est clair que cette femme entendait que ses deux fils eussent les premières places dans l'état de Jésus-Christ. Cette façon de parler est tirée de la coutume des princes, qui faisaient anciennement asseoir en ce lieu-là les personnes qu'ils favorisaient du principal honneur après eux, comme vous le voyez dans l'histoire sainte où le roi Salomon fait asseoir sa mère Bethsabée à sa main droite, d'où vient aussi que le psalmiste donne ailleurs la même place à l'épouse mystique auprès de son époux. « Ton épouse est à ta droite, parée d'or d'Ophir », psaume 45. Ainsi, vous voyez qu'être assis à la droite de l'Éternel, c'est avoir auprès de lui une autorité et puissance infinie. C'est être la seconde personne dans son empire et avoir le gouvernement et la surintendance. Cela paraît encore clairement des paroles de l'apôtre, où, rapportant ce passage, il l'exprime ainsi « Il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis pour le marchepied de ses pieds. » Il dit « régner » au lieu d'être assis à la droite du Père. Certainement, être assis à la droite de l'Éternel n'est donc autre chose, selon l'apôtre, sinon régner et exercer une puissance et autorité royale. Cela même se prouve encore par le discours de saint Pierre dans les Actes, où, ayant allégué ce premier verset du psaume, il ajoute immédiatement « Que donc toute la maison d'Israël sache assurément que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Ce raisonnement ne sera pas juste si vous ne posez qu'être assis à la droite de Dieu signifie être fait Seigneur et Christ, puisque l'apôtre, par ses paroles, applique à Jésus crucifié par les Juifs ce que le psalmiste entendait en disant « que l'Éternel a fait asseoir son Seigneur à sa droite ». Enfin, cela se reconnaît encore de ce que l'Écriture, parlant du siège de Christ à la droite de son Père, fait presque toujours mention de sa puissance. Comme quand saint Pierre dit que le Christ est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, auquel sont assujettis les anges et les puissances et les vertus. Et quand saint Paul dit que Dieu a fait asseoir le Seigneur Jésus à sa droite, au-dessus de toute principauté et puissance et seigneurie. Et ainsi souvent ailleurs, signe évident que ces saints hommes entendent par ces paroles l'établissement de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette royauté souveraine qu'il exercera jusqu'à la fin des siècles. Car cet empire durera assurément jusque-là, comme le prophète nous l'apprend dans les paroles suivantes, « Assieds-toi à ma dextre, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'aie entièrement détruit et rangé tes ennemis sous ta puissance. » Car c'était, et c'est encore aujourd'hui, la coutume des peuples orientaux que les princes et les conquérants qui remportent quelques grandes victoires sur leurs ennemis, s'ils en peuvent prendre les principaux en vie, les font mettre enchaînés sous leur table ou sous leur trône, comme nous lisons dans le livre des Juges qu'un certain Adoni-Bézek se vante d'avoir eu 70 rois qui, les pouces des pieds et des mains coupés, recueillaient sous sa table les miettes de pain qui tombaient. Et nous apprenons dans les histoires de l'Orient qu'en ces derniers siècles, le grand Tartare Tamerlan, ayant défait et pris Bajazet, l'empereur des Turcs, le fit renfermer dans une cage de fer qu'il traînait partout avec lui comme le trophée de sa victoire. Et telle était aussi entre les Romains cette pompe glorieuse qu'ils appelaient le triomphe, quand les généraux de leurs armées, revenant de la guerre victorieux, faisaient leur entrée dans la ville de Rome et dans le principal de ses temples, sur un superbe chariot alentour duquel marchaient enchaînés les principaux de leurs ennemis captifs. Le psalmiste regarde sans doute à ses anciennes coutumes et par ses mots « mettre les ennemis de Christ sous ses pieds » ne signifie autre chose que l'en faire triompher, les subjuguant et réduisant entièrement sous son pouvoir, les dépouillant de toute force et dignité, les couvrant d'une extrême ignominie. Voilà quelle est la prédiction du prophète touchant l'exaltation du Messie. Il l'exprime en termes du temps passé. « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, selon le style ordinaire des prophètes, pour en montrer plus clairement la vérité et la certitude. En effet, la chose ne manqua pas de s'accomplir en son temps, lorsque le Seigneur Jésus, le vrai Christ de Dieu, promis dans les livres de l'Ancien Testament, après avoir fait l'expiation de nos péchés par le sacrifice de sa croix, s'étant ressuscité d'entre les morts, monta au ciel et y reçut du Père cette puissance et royauté souveraine dont l'exercice est ici appelé son siège à la droite de l'Éternel. Car le Père l'établit premièrement chef de l'Église et le fit pour cet effet le dépositaire de toutes ses grâces et qu'il dispense à son plaisir selon qu'il est à propos pour la gloire de son empire et pour le bien de ses sujets, les enseignant, les sanctifiant et consolant efficacement, tant par sa parole que par son esprit. Puis après, il fut aussi fait le chef des anges, leur roi et leur monarque, qui en dispose absolument, les envoyant çà et là pour servir ceux qui doivent recevoir l'héritage de son salut. Son trône est incessamment environné des saintes et glorieuses armées de ses esprits bienheureux. De plus, le Père lui mit en main toutes les autres créatures célestes et terrestres, tous les ressorts de la nature des choses, leur être et leur mouvement, pour les conduire, changer, altérer, accroître et diminuer, renforcer ou affaiblir, et enfin pour s'en servir avec un pouvoir absolu. Il lui donna pareillement un plein pouvoir et une autorité suprême sur tous les empires, royaumes et états de l'univers, pour les élever ou les abaisser, pour les transporter d'un lieu à un autre et leur dispenser l'adversité et la prospérité selon son bon plaisir. Il lui assujettit aussi toutes les puissances de l'enfer qui frémissent sous son sceptre et ne peuvent rien faire ni entreprendre sans sa permission. Enfin, il lui a donné le droit de juger un jour le monde universel et de rendre à toutes les créatures les rétributions éternelles ou de la justice ou de la clémence divine et pouvoir pour cet effet de ressusciter tous les hommes que la mort aura retirés de cette vie, afin qu'ils comparaissent devant son trône judiciaire. Ainsi a été accompli, en la personne du Seigneur Jésus, ce que le prophète avait prédit, que par l'ordonnance du Père, il serait assis à sa droite. D'où vous voyez que la personne de Jésus est divine et de n'être infini, puisqu'elle est douée d'une puissance et sagesse infinie. Il est clair que sans cela, il ne lui serait pas possible d'exercer une royauté si immense, car une puissance et une sagesse bornée et finie, comme est celle des simples créatures, ne suffiraient pas pour conduire l'univers, pour gouverner l'Église, dispersée en tant de lieux et en tant de siècles, pour tenir en bride les méchants et les démons même, et pour ressusciter enfin toute chair humaine au dernier jour. Ce sont là des actes d'une puissance et d'une sagesse immense. Puis donc que le Seigneur en est capable, comme l'Ancien Testament l'avait prédit, et comme le Nouveau l'a annoncé, reconnaissez, chrétiens, que sa sagesse et sa puissance est infinie, et par conséquent aussi sa personne, car il n'est pas possible que des qualités infinies tiennent dans un sujet fini, chacun sachant qu'il faut de nécessité que ce qui reçoit une chose soit plus grand ou tout au moins égal à la chose qu'il reçoit. La personne de Jésus-Christ a en soi des propriétés ou qualités infinies. Il faut donc qu'elle-même soit aussi infinie, c'est-à-dire qu'il faut confesser qu'il est Dieu béni éternellement, puisqu'il n'y a point d'autre être infini que celui de Dieu. Toutes les choses créées étant évidemment finies, ayant leur être enclos dans des bornes certaines et limitées. D'où je confesse que l'on peut conclure légitimement qu'il est présent en tout l'univers et qu'il est dans tous les lieux du monde sans être enclos en aucun, car sans cela il ne serait pas Dieu, vu que c'est là l'une des propriétés de la divinité, et sans cela l'on ne pourrait pas dire véritablement qu'il est assis à la droite de Dieu, c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, qu'il règne et gouverne absolument dans tout l'empire de son Père. Mais c'est tirer ce discours au-delà de la juste raison, d'en inférer, comme font quelques-uns, que sa nature humaine et par conséquent aussi sa chair est partout présente. Car être assis à la droite de Dieu est une qualité attribuée à sa personne et non à l'une de ses natures, simplement qui lui appartient en tant qu'il est le Christ et le médiateur des hommes, et non précisément en tant qu'il est homme. Or, qui ne voit que c'est un sophisme d'appliquer à l'une des natures particulièrement ce qui convient et est attribué à toute la personne. C'est tout de même que si je concluais que le corps d'un homme est doué d'intelligence et qu'il raisonne, sous ombre que nous disons de l'homme pris dans son entier et considéré comme une personne, qu'il est doué d'intelligence et de raison. Il en est doué, qui en doute, mais à l'égard de l'une de ses parties seulement, à savoir l'âme, et non à l'égard de toutes les deux. Il suffit pour vérifier cette proposition que la raison se trouve en quelqu'une de ses parties. Il n'est pas besoin qu'elle réside en elle toute. Ici donc, tout de même, pour justifier que le Christ est assis à la droite de Dieu et qu'il est par conséquent infini, c'est assez qu'il soit infini selon sa divinité, mais il ne s'ensuit pas qu'il le soit aussi selon son humanité. Autrement, il faudrait confondre et brouiller ses natures et trouver toutes les qualités et tous les attributs de l'une en l'autre, ce qui serait évidemment anéantir tout le mystère de notre salut. Mais l'on demande ici, premièrement, comment le Père a fait asseoir Jésus-Christ à sa droite après sa résurrection seulement. Car puisque ce siège, comme nous l'avons expliqué, n'est autre chose que le droit et l'exercice de l'empire souverain sur toute chose, Christ étant Dieu béni éternellement, n'a-t-il pas toujours été assis à la droite de son Père? À cela, je réponds que le Seigneur Jésus a deux sortes de puissance et d'autorité royale. L'une essentielle en tant que Fils de Dieu, co-éternel et co-essentiel au Père, l'autre acquise en tant que médiateur, l'une de nature en tant que Dieu, l'autre d'office en tant que Christ. Le titre et le fondement de la première est son essence propre, qui étant éternelle, cette puissance est par conséquent éternelle en lui. Le titre et le fondement de l'autre, c'est son obéissance et ses souffrances, dont il s'est acquitté en la plénitude des temps, seulement après avoir revêtu notre chair, si bien que le droit et le pouvoir qu'il a acquis par là lui a été donné en temps seulement. Il y a deux choses en lui, son essence et son office. Son essence, c'est ce qu'il est, la parole et la sagesse du Père. Et à cet égard, j'avoue qu'il a toujours eu, et avant et après son incarnation, une puissance royale sur toute chose. Son office est qu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. À cet égard, il n'a pas toujours eu le droit et le pouvoir qu'il exerce maintenant, car il a fallu qu'il souffrît premièrement et qu'il passât les jours de sa chair sur la terre pour entrer ensuite dans sa gloire. Saint Paul nous le représente divinement quand il dit que Jésus-Christ, étant en forme de Dieu, il n'a point réputé rapine d'être égal à Dieu. Voilà son essence ou sa nature première et originelle. Puis il ajoute, « Toutefois, il s'est anéanti soi-même, ayant pris forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé soi-même et a été obéissant jusqu'à la mort, voire la mort de la croix. Voilà son anéantissement volontaire et la première partie des fonctions de sa charge. » Enfin, l'apôtre conclut, pour laquelle cause aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà la gloire et la dignité qui lui convient en tant que médiateur. C'est à cet égard que le psalmiste le considère en ce lieu, et l'Écriture nous le propose le plus souvent en cette qualité. Mais quelqu'un nous demandera encore en deuxième lieu, comment il est vrai que le Seigneur Jésus exerce maintenant toute cette puissance que nous avons décrite, vu que le psalmiste attribue toute cette action au Père, disant que c'est lui qui met les ennemis de Christ sous l'escabeau de ses pieds, signifiant par là, comme il semble, que Jésus demeure là-haut oisif pendant que le Père travaille à subjuguer ses ennemis. Christ règne, comme dit saint Paul. Il a seigneurie au milieu de ses ennemis, comme chante le psalmiste. Il a une verge de fer avec laquelle il froisse les nations, comme le même l'écrit ailleurs, expression qui montre clairement qu'il est toujours dans l'action, recueillant et conservant son Église, combattant et détruisant ses ennemis. Mais pour ce qu'il fait toutes ces choses, comme à la place de son Père et comme étant son lieutenant, jusqu'à ce que le péché étant pleinement aboli, le Père agisse lui-même immédiatement, sans l'intervention du médiateur. De là vient que le psalmiste, ayant égard à cette dispensation, dit que c'est le Père qui dompte les ennemis de son Fils, comme si nous disions que le Père a racheté le monde par son Fils. En troisième lieu, quelqu'un pourra s'étonner de ce que le psalmiste dit, que le Christ sera assis à la droite du Père jusqu'à ce que ses ennemis soient subjugués. Car ses ennemis ne sont-ils pas déjà vaincus? Ne les a-t-il pas mis pour le marchepied de ses pieds en triomphant d'eux par la croix? Mais la réponse est aisée. Que le Christ doit vaincre ses ennemis en deux façons. Premièrement, en leur ôtant le droit et l'autorité qu'ils pouvaient prétendre sur ses sujets à raison de leurs péchés, pour la condamnation que la loi a prononcée contre tous ceux qui en sont coupables. Et c'est la victoire de la croix de Christ. Car en mourant, il a dépouillé ses ennemis de ce droit, qui était leur arme principale, ayant parfaitement satisfait la justice de son Père et acquis le droit du royaume éternel. Mais il faut qu'en second lieu, il arrache ses ennemis de cette injuste possession qu'ils retiennent encore, bien qu'ils en aient perdu le droit, et que de l'autre côté, il mette ses enfants dans une paisible jouissance du royaume dont il leur a acquis ce droit. C'est donc ce qu'il fait maintenant et qu'il fera encore aussi après, jusqu'à ce qu'il ait à pur et à plein exterminé ses ennemis, dont le dernier qui sera aboli est la mort. D'où paraît la solution d'une quatrième question qui se présente sur ce passage, à savoir si après cette grande et dernière ruine de nos ennemis, qui se fera au jour du jugement, le Seigneur Jésus ne sera plus assis à la droite du Père. Car, puisque ce siège n'est autre chose que l'emploi de sa puissance et de sa sagesse royale à recueillir et à défendre son Église et à dompter et détruire ses ennemis, qui ne voit que cela cessera lorsqu'il aura pleinement exécuté ce dessein et réduit ses ennemis à tel point qu'ils ne pourront plus rien entreprendre contre son Église. Saint Paul nous l'enseigne clairement, là où il dit que le Seigneur remettra le royaume à Dieu le Père, quand il aura aboli tout empire et toute puissance, et dans le même sens encore que quand toutes choses auront été assujetties, alors aussi le Fils lui-même sera assujetti. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 24 à 28. Car pendant qu'il est assis à la droite du Père, et qu'il exerce sa puissance et sa souveraineté dans l'univers, il ne paraît pas qu'il lui soit sujet. Au lieu que tout cet exercice et cet emploi cessant, et Dieu étant tout en tous, immédiatement et par soi-même, il sera alors évident qu'en tant qu'homme, il est sujet au Père. De là ne s'ensuit nullement que le règne de Christ doive alors prendre fin, l'Écriture nous affirmant qu'il n'est pas semblable au royaume de la terre, qui se ruine par des guerres, soit civiles, soit étrangères, au lieu que le règne de Christ n'est sujet à nul de ses accidents. Le Seigneur cessera alors de régner, c'est-à-dire d'exercer les fonctions qu'il fait maintenant, mais cela ne procédera d'aucune diminution de sa puissance, ou de sa sagesse, ou de son autorité. Elles seront éternellement en lui. Mais de ce que la matière est l'objet de cet emploi cessera, ne restant plus ni de force aux ennemis pour les combattre, ni de mots ou de faiblesse ou de défauts à ses sujets pour les consoler ou assister ou amender, les biens, la justice, la paix et la sainteté fleurissant par tout son état, dans une abondance si riche et dans une fermeté si assurée, qu'il ne sera plus besoin qu'il fasse aucun acte, soit de clémence pour pardonner, car il n'y aura plus de péché, soit de justice pour punir, car il n'y aura plus d'ennemis, soit de sagesse ou pour conduire ou pour instruire, car il n'y aura plus ni de désordre ni d'ignorance, restant seulement qu'il se réjouisse éternellement avec les siens de ce grand et éternel ouvrage de ses mains. Ainsi avons-nous brièvement expliqué la nature, les parties, la constance et la durée de la domination royale de Jésus-Christ pour l'éclaircissement du texte du psalmiste. Mais la solennité de ce jour nous oblige à ajouter aussi quelque chose du lieu ou du siège de ce règne du Seigneur. Car qu'était-il besoin, dira ici quelqu'un, que Jésus alla au ciel? Ne pouvait-il pas, demeurant ici sur la terre, s'asseoir à la droite de Dieu, puisqu'être assis n'est autre chose que régner? À cela, je réponds que non, parce que cela n'était nullement convenable à la sagesse divine. Car si vous considérez l'ordre qu'elle a établi dans l'univers, vous verrez qu'elle y a tellement disposé les choses que les causes sont au-dessus des effets qui en dépendent. L'air au-dessus de la terre qui en reçoit les impressions, le ciel au-dessus de l'air et des autres créatures visibles, parce que c'est de lui qu'elles dépendent toutes. Puis donc que le Père a voulu donner au Seigneur Jésus la surintendance universelle du monde, et lui mettre entre les mains les premiers et souverains ressorts de toutes choses, ne fallait-il pas qu'il logeât au-dessus des cieux, afin que de ce lieu élevé, au-dessus de tout le reste de l'univers, trône digne d'un si grand roi, il répandit partout sur son empire les divers effets de sa sagesse et de sa puissance, comme autant de fortes et efficaces influences pour conduire, changer et dispenser toutes les créatures à son plaisir. Mais, outre que l'ordre du monde le requérait ainsi, la condition tant de sa nature que de sa charge et l'intérêt de ses sujets l'obligeait, après avoir souffert sur la terre, d'aller régner dans le ciel. Car étant un homme céleste, germé du ciel et non de la terre, formé dans le sein de la Vierge par la vertu d'un principe céleste et divin, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qu'aurait-il fait de plus sur la terre après avoir accompli l'œuvre de sa médiation? Le ciel, le lieu de son origine, était aussi celui de son repos, c'était sa patrie et, si je l'ose ainsi dire, son élément. Comme donc les choses naturelles retournent d'elles-mêmes au lieu de leur repos, dès que les causes qui les en retenaient ont cessé, les choses légères en haut et les pesantes en bas, il a fallu tout pareil que cette nature de Jésus-Christ, qui, bien qu'humaine, était néanmoins céleste et divine, reprit son vol vers le ciel et y alla faire sa demeure, aussitôt qu'eurent cessé les raisons qui l'arrêtèrent pour un temps ici-bas afin d'y expier nos péchés. mais sa charge l'obligeait encore à la même chose, car étant sacrificateur souverain, il fallait qu'après avoir offert son offrande dans ce parvis du temple, c'est-à-dire sur la terre, il alla la présenter à Dieu dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le ciel, puisqu'étant sacrificateur éternel, il lui fallait un sanctuaire éternel. Et il n'y en a point d'autre de cette qualité dans tout l'univers que le ciel où il est monté. Étant aussi le prophète souverain du genre humain, il a été de la bienséance qu'il s'assit dans une chair de cette nature, seul vraiment digne de lui, c'est-à-dire dans le plus haut endroit des cieux, d'où il donne ses enseignements d'une façon divine, faisant entendre sa voix en tous les lieux de l'univers, par la prédication de son évangile et par la vertu de son esprit qui l'accompagne et dont il verse les lumières ici-bas dans les entendements des hommes, comme le soleil visible épand ses beaux rayons et l'agréable clarté du jour dans tous les climats de la terre. À quoi il faut encore ajouter que le Saint-Esprit, la seule lumière capable de nous faire voir la vérité, ne pouvant descendre en notre terre que Jésus-Christ ne fût premièrement monté au ciel, comme nous l'avons montré ailleurs, il fallait bien de nécessité pour être notre prophète qu'il fût élevé dans le ciel. Sa royauté enfin le requérait aussi pareillement, car étant roi du royaume des cieux, quel autre palais et quel autre trône pouvait-il avoir que le ciel ? Mais nous avions nous-mêmes intérêt qu'il montât au ciel et qu'il y régnât jusqu'à la fin des siècles. Car quelle assurance pourrions-nous prendre de sa victoire et de l'acquisition de notre immortalité si nous ne l'avions vu non seulement ressusciter des morts, car plusieurs sont ressuscités qui n'ont pas laissé de mourir encore après cela, mais aussi monter au ciel, le vrai et naturel domicile de l'immortalité. Et quelle encore aurait été notre espérance sans cela, si Jésus-Christ ne l'avait relevé et affermi, en portant notre nature dans le ciel comme un gage de nous-mêmes et nous laissant son esprit sur la terre comme un gage de soi-même. Enfin, notre charité se fut ou tout à fait éteinte ou du moins abâtardie en une affection charnelle, si le Seigneur n'était monté au ciel. Comme vous voyez que pendant qu'il fut sur la terre, l'amour que lui portaient ses disciples avait quelque chose de puéril et de terrestre. Pour l'épurer et le perfectionner, il a retiré sa nature humaine au ciel. Pour ces raisons et autres semblables, Christ s'est assis à la droite de Dieu dans les cieux, et il règnera jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis pour le marchepied de ses pieds. C'est donc à vous, chrétiens, de faire état que vous avez là-haut dans le ciel le prince de votre salut, revêtu d'une gloire souveraine, conduisant et gouvernant toutes choses à son plaisir, comme le Père éternel lui en a communiqué le droit et l'empire. Et de là, apprenez premièrement à le chercher là où il est véritablement, non ici-bas entre les morts, comme firent autrefois les femmes qui l'avaient suivi de Galilée, non dans les ciboires ou dans les chambres, ou dans les mains d'un homme mortel, comme font aujourd'hui les superstitieux, mais dans le ciel, le vrai trône de sa gloire, d'où il ne descendra que pour juger les vivants et les morts. Souvenez-vous, puis après, que le Père l'appelle désormais, c'est-à-dire depuis sa résurrection, non à souffrir, non à être immolé ou à se tenir caché sur un autel de pierre ou de bois, mais bien à s'asseoir à sa droite, c'est-à-dire à la jouissance et à l'exercice d'une puissance glorieuse et infinie, et cela jusqu'à ce que ses ennemis soient domptés, c'est-à-dire jusqu'à la consommation des siècles. En conscience, serait-ce être assis à la droite de la majesté divine, d'être enveloppé dans les espèces d'une hostie plus mince et plus chétive que les langes où il fut autrefois couché au commencement des jours de son anéantissement ? Serait-ce être assis à la droite de l'Éternel, de couler par le gosier dans les ordures et les immondices de l'estomac d'un homme, et souvent d'un méchant homme comme d'un Judas, et quelquefois même, oh, horreur, dans l'estomac d'un animal. Serait-ce être assis dans un trône de gloire, de moisir dans un ciboire, d'y être sujet à l'humidité, à la pestilence, au feu et autres accidents des choses matérielles, insensibles, sourds et aveugles, arrière à jamais de nos cœurs des pensées si grossières et si monstrueuses, notre Christ, ô homme, est un Dieu tout-puissant, manifesté en une chair qui véritablement a souffert autrefois pour expier nos crimes, mais au reste est monté à l'issue de ce combat dans un palais royal là-haut, au-dessus des astres, où est son corps, non sombre et obscur, et méprisable et invisible, comme vous le feignez, mais plus clair et plus resplendissant que le soleil, non faible et ayant besoin de nos mains et de nos épaules pour le porter, mais tout-puissant et soutenant l'univers par sa force, non oisif et croupissant dans un petit lieu sans y rien faire, mais agissant et remuant toutes choses, non gisant dans l'ordure et dans les bassesses de la terre, mais assis à la droite de Dieu dans les plus hauts lieux de l'univers. Ne me dites point que la vertu de vos paroles l'évoque ici-bas et qu'elle l'y retient continuellement, le faisant descendre à quand bon vous semble jusque dans votre estomac. Sans prophète nous a prémunis de bonheur contre votre séduction, nous ayant ici averti que le Christ de Dieu sera assis à la droite de son Père jusqu'à la consomption de ses ennemis, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde. Je ne vois point qu'ils doivent descendre en notre terre. Je trouve seulement qu'il nous faut monter en son ciel. Si vous voulez donc, âme fidèle, avoir quelque chose de lui, son esprit, sa consolation, la vertu de sa chair et de son sang, élevez-vous au ciel où il est. Ne vous adressez point à la terre où il n'est pas. Comme les anciens Israélites attachaient leur dévotion au temple et à l'arche de Jérusalem, l'enseignement visible que Dieu leur donnait de sa présence, il nous faut aussi maintenant attacher nos yeux et nos cœurs au ciel, le saint lieu qui contient notre arche, c'est-à-dire le corps de notre Seigneur Jésus. Mais, chers frères, si nous avons dans cette méditation un excellent bouclier contre l'erreur du pape, qui loge Jésus-Christ et le bien du chrétien sur la terre, au lieu qu'il est dans le ciel, nous y avons d'autre part un puissant remède contre les séductions du monde et de la chair, qui retiennent tant qu'ils peuvent nos cœurs ici-bas. Fidèles, souvenez-vous que votre trésor est dans le ciel, que votre cœur y soit aussi. Que cherchez-vous sur la terre? Pourquoi y laissez-vous ramper vos affections et vos désirs? Avez-vous oublié que tout ce qu'elle vous promet de bien n'est que vanité, une figure creuse et vide qui passe légèrement? Avez-vous oublié que ce Christ qui est là-haut et auquel vous pensez si peu tient en sa main la plénitude des vrais biens, la paix, la joie et les délices secrètes de l'esprit, la vie et l'immortalité? Chers frères, j'aurais ici à faire de grandes plaintes contre les mœurs de la plupart de nous, qui, faisant profession d'être les membres d'un Christ tout céleste et de n'adorer et de ne servir que lui, ne respirent rien moins que le ciel et n'adorent rien que la terre. Mais j'aime mieux prier ce souverain Seigneur, assis là-haut à la droite de son Père, qu'il étende sa main puissante et les arrache de cette malheureuse boue où ils se sont enfoncés, pour les ressusciter et les faire asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, leur persuadant une fois par la démonstration de son esprit, ce qui nous a si souvent et si clairement enseigné dans sa parole, que nul ne peut avoir part en lui s'il ne monte au ciel avec lui, s'il n'y fait reposer son amour et ses désirs. Et c'est en vain que nos esprits et nos corps attendent la rédemption de ce Seigneur céleste, tandis que l'avarice ou la volupté ou l'ambition nous tiennent englués dans la terre. Que si par sa miséricorde il nous a déjà sanctifiés au moins en quelques degrés, s'il a élevé quelques petites parties de nous dans son ciel, fidèles, ne craignons plus rien après ce bonheur. Aux maux dont les ennemis nous menacent, opposons le Christ que Dieu nous a donné et la puissance éternelle dont il l'a couronné. Ô monde, ô enfer, que nous ferez-vous puisque notre Rédempteur est assis à la droite de son Père? Puisque de ce trône où il règne, il voit vos artifices et vos violences. Ne craignez point, Israël de Dieu, quelque faible et méprisable que vous soyez en vous-même. Votre Christ, qui vous a aimé jusqu'à mourir pour vous, est assis au-dessus des cieux. Il a un œil que rien ne peut tromper, une main que rien ne peut éviter. Tenez ferme sous son bouclier, que rien ne vous épouvante. Regardez au ciel et pensez que celui qui est monté pour vous y préparer votre place gouverne le ciel et les éléments, les anges, les hommes et les démons même. Remettez seulement vos affaires à la conduite de sa sagesse, qui se plaît à braver la fierté de ses ennemis avec la faiblesse de ses fidèles. Assurez-vous qu'il faudra enfin que tous ceux qui s'opposent à lui périssent, et que ceux que nous voyons aujourd'hui traitent si insolemment ses enfants, et espérer de mettre un jour leur nid au-dessus des étoiles, soit abîmé au fond des enfers. L'Éternel avait dit que le Seigneur serait assis à sa droite, et cela s'est accompli par l'ascension de Jésus au ciel. C'est la même bouche qui prononce ensuite que ses ennemis seront mis pour le marchepied de ses pieds. Ne doutons point que cela ne s'accomplisse aussi en son temps. Ô sainte et heureuse journée du Fils de Dieu, autant dure et terrible pour les ennemis de sa gloire que douce et souhaitable pour les enfants de sa grâce. Quand te verrons-nous arriver, armés de foudre et de feu pour la punition et la destruction des uns, toutes resplendissantes de lumière et de joie pour la consolation des autres? Quand verrons-nous ce Seigneur souverain du monde venir du ciel avec ses anges et, après avoir foulé tous ses ennemis aux pieds, nous prendre à soi et nous mettre entre l'entière possession du royaume éternel qu'il nous a acquis par le mérite de ses souffrances précieuses? Chers frères, a-t-on ce temps bienheureux par nos souhaits? A-t-on-le par notre repentance, par un sérieux amendement de vie, par un humble et constant service de ce prince céleste que l'Éternel nous a donné pour Seigneur et qu'il a fait asseoir à sa droite après l'œuvre de notre rédemption jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis pour le marchepied de ses pieds? Ainsi soit-il.